Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Mayotte, 101e département depuis 2011, est le plus pauvre de France. Il traverse actuellement une mauvaise passe. En décembre dernier, la capitale Mamoudzou et le quartier de Tsigoni étaient ravagés par le cyclone Chido, au vent particulièrement dévastateur. Puis, ce fut une tempête tropicale, avec des pluies et des glissements de terrain. Et cette semaine, 3 feux ont ravagé le nord de Grande Terre, Akouan et Vaïbé. Souvent sont liés aux brûlis interdits mais encore courants qui permettent de brûler les mauvaises herbes avant les cultures. Ces feux, attisés par les vents violents, ont ravagé les forêts abattues par le cyclone, soumises à l'intense sécheresse qui règne actuellement dans la région. Et on a besoin de ces forêts parce que ce sont elles qui reforment le sol mahorais. Nous sommes dans l'océan Indien et les températures de la mer ont grimpé anormalement sous l'effet du réchauffement. Le cyclone Chido a été particulièrement violent. D'habitude, les cyclones perdent un peu de leur intensité en passant au-dessus de Madagascar. Est-ce la raison pour laquelle la population n'a pas cru aux alertes ? Ne s'est pas protégée ? Peu formée à la culture du risque ? Souvent, outre-mer, on laisse passer le cyclone. Et quand le soleil revient, eh bien, on revit. On oublie le sale moment. Alors d'autres avancent une raison plus politique. Les émigrés clandestins, qui constituent un tiers de la population, ont eu peur d'être réexpédiés aux Comores s'ils venaient aux abris. Le maire de Mamoudzou a démenti cette information. Au lendemain du cyclone, il a vu les enfants des clandestins rejoindre les immeubles en dur. Événements extrêmes se superposent souvent à des manquements de gouvernance. Et il ne faut pas seulement accuser le réchauffement climatique. Mayotte n'y échappe pas. Et ce qui vient de se passer là-bas pose clairement partout la question de l'adaptation aux nouveaux risques. Alors d'abord l'habitat. Sous des vents à 200 km/h, les bangas, qui sont des abris succincts recouverts de tôles érigés par des habitants pauvres, se sont envolés comme des fétus de paille. Or, pour comprendre la précarité des habitations mahoraises, il faut refaire un peu d'histoire, un peu de géopolitique, et se demander si la France a respecté ses responsabilités. Il y a 50 ans, le 22 décembre 1974, l'archipel des Comores s'émancipait de la France. À la question « Souhaitez-vous que le territoire des Comores devienne indépendant ?», les 164 000 Comoriens qui participent au scrutin répondent « Oui » à 96%. Le score dépasse même les 99% dans 3 des 4 grandes îles, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli. À Mayotte, en revanche, le non l'emporte à 64%. L'île est devenue française en 1841, soit 40 ans avant les autres. Et elle est davantage attachée à la France. Depuis le début des années 1960, en plus, les femmes mahoraises combattent l'influence des autres îles en se jetant sur leurs émissaires sous la conduite de Zenan Ndéré. Elles se nomment elles-mêmes les chatouilleuses. Elles harcèlent les porte-paroles des autres îles au point de les faire tomber par terre et les empêchent ainsi de faire campagne. Le gouvernement de Jacques Chirac décidera que Mayotte restera française. Elle accédera au statut de département en 2011. Quant aux Comores, elles proclament unilatéralement leur indépendance en 1975 et depuis, elles revendiquent Mayotte. Écoutons la présentation géopolitique de l'archipel qu'Émilie Aubry nous fait dans son émission Le Dessous des Cartes sur Arte.
Aujourd'hui, on prend la direction de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, 101e département français, à presque 10 heures d'avion de Paris. Mamoudzou, un peu plus de 100 000 habitants, soit un tiers de la population de l'île, concentre l'ensemble des activités administratives et économiques de Mayotte. Le centre-ville a été particulièrement éprouvé par le passage du cyclone Chido à la mi-décembre dernier. Des vents dévastateurs et des plus intenses qui ont causé des dégâts considérables, humains et matériels, Mayotte a une histoire particulière avec la France. De 1946 à 1975, les quatre îles des Comores constituent un seul et même territoire d'outre-mer rattaché à la France. 1974, l'archipel souhaite accéder à son indépendance. Une consultation d'autodétermination est alors organisée. Les habitants d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande Comore se prononcent pour l'indépendance. Mais Mayotte choisit, elle, de rester française. Une fragmentation de l'archipel qui pose des questions de droit international avec le non-respect de l'intégrité territoriale des Comores, mais qui va permettre à la France de maintenir sa présence stratégique dans l'océan Indien. Avant le passage du cyclone, 77% de la population vivait déjà sous le seuil de pauvreté, avec un PIB par habitant inférieur à 10 000 euros contre plus de 30 000 pour la moyenne nationale. Et pourtant, Mayotte reste une terre où beaucoup rêvent d'émigrer. À seulement 70 km de là, par exemple, l'État des Comores est l'un des pays les plus pauvres au monde, où le PIB par habitant dépasse à peine 1 500 euros. D'où les tentatives de nombreux Comoriens de rejoindre Mayotte, où l'offre de soins, notamment, est bien supérieure. Mayotte attractive pour les Comoriens, mais pourtant soumise à des difficultés majeures, comme toutes les économies ultramarines, lesquelles souffrent souvent de maux similaires, notamment le chômage, 2 à 3 fois supérieur aux Antilles et à La Réunion que dans l'Hexagone. Le PIB par habitant y est par ailleurs inférieur de plus d'un tiers.
Puis le cyclone Chido à Paris et au niveau gouvernemental, on se préoccupe beaucoup de la reconstruction de Mayotte. Alors, deux mots sur ce sujet. C'est vrai que le foncier est la chose la plus précieuse sur une île. Et quand il vient à être occupé par un habitat illégal et dispersé, que peut-on faire ? Cyril Anap, qui est architecte, responsable de l'organisme Un Toit pour Tous en Outre-mer, travaille depuis 10 ans à Mayotte. Il nous donne son sentiment sur la reconstruction au micro de France Culture.
Ce n'est pas seulement les logements de bidonville qui ont été affectés, c'est la quasi-totalité du parc de logements qui a été affecté, avec des toits qui sont volés sur... Au moins 70% des logements. Alors effectivement, dans les bidonvilles, on a constaté que tout était par terre. Par contre, mes remontées de terrain n'indiquent pas des quantités de morts astronomiques dans ces quartiers. Et surtout, d'ores et déjà, j'ai reçu hier des photos de certains quartiers qui sont déjà reconstruits. Pratiquement à l'identique, les tôles ont été récupérés, les morceaux de bois ont été récupérés et les gens reconstruisent. Donc un des défis qui se présente aux architectes et aux reconstructeurs, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils construisent dans des meilleures conditions de sécurité, c'est-à-dire en mettant les équipements techniques, ce qu'on appelle des contreventements, c'est-à-dire des diagonales, en fixant les toits de manière différente pour que ces maisons résistent aux prochains cyclones qui vont venir. Chido, personne ne peut y résister, mais il y a d'autres cyclones qui seront moins puissants, qui vont venir dans les mois à venir, puisque c'est la saison des cyclones qui commence. Il y a des stratégies qu'on est déjà d'ailleurs en train de mettre en place dans un quartier de Mamoudzou, à Kawini d'ailleurs justement. C'est des stratégies qui ont été éprouvées en Amérique latine, en Colombie, au Brésil, qui ont d'ailleurs été également éprouvées en France, en Martinique, sous l'égide de Serge Letchimy, qui consiste en gros à améliorer les choses par le bas. C'est-à-dire qu'on met en place des cheminements, des routes, des réseaux d'eau, d'électricité, de sanitaire, et peu à peu, on met en place une sécurisation foncière. Ce qui fait que, en fait, les gens... Tout d'un coup, dispose d'une parcelle saine et on va consolider les terrains pour qu'il n'y ait plus de système de risque, de glissement de terrain, de problèmes de gestion d'eau. Et en fait, les gens peuvent consolider leur maison ou il est loisible à l'État, s'il s'en donne les moyens, de construire des logements dans ces sites. Parce que quand on entend le Premier ministre, par exemple, appeler à la création ou à l'amener de préfabriqués, vu que l'île est exsangue déjà en termes de surface, les bidonvilles, ils s'installent toujours dans les endroits les plus impossibles, dans les pentes, dans les ravines, où il est impossible de construire, on va dire, avec des outils classiques. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on installe les logements ?
Et donc, on limite les risques. C'est ça la philosophie de ces projets ?
Exactement. Limiter les risques. Et néanmoins, d'ailleurs, enfin, le projet qui est en cours actuel, de construction à Kaweni, on met aussi en place un réseau d'abris destinés aux habitants pour qu'ils puissent se réfugier en cas de cyclone fort.
Alors, pour reconstruire durablement, eh bien, il faudra prendre tout en compte. Cyril Hanappe a cité Serge Letchimy, l'ancien député, mais aussi urbaniste. On lui doit un savoir-faire et une grande réussite dans la suppression des bidonvilles à Fort-de-France. Les ultramarins connaissent bien leurs îles. À Mayotte, certes, se pose la question de la reconstruction, mais aussi celle du manque d'eau, fléau maoré, et cela bien avant Chido. Et n'est-ce pas le moment de retrouver les espaces ruraux ou l'agroforesterie qui permettait de redonner à Mayotte de la nourriture, des sols capables de capter à nouveau l'eau qui manque cruellement. Monique Girardi, qui est chercheuse à Port-Valéry et qui est l'auteur de l'Atlas de la ruralité à Mayotte, viendra nous en parler d'ailleurs prochainement. À Montpellier, les étudiants mahorais se sont mobilisés pour organiser une grande journée de réflexion entre élus, citoyens et associations spécialisées. Sans doute pourra-t-on y faire un point sur les débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais il ne s'agit pas seulement de reconstruire Mayotte. Les îles ultramarines sont des écosystèmes fragiles. Zones urbaines, zones cultivables, forêts, sol, eau, envasement du lagon, mort des mangroves. Tout cela fonctionne au même rythme et chaque activité dépend de l'autre. Aujourd'hui, nous avons invité Claire Hart. Elle est vice-présidente du conseil municipal de Montpellier et déléguée au rayonnement international. Elle viendra, elle sera présente à cette journée consacrée à Mayotte et elle revient avec nous sur la gestion des risques. Bonjour Claire Hart.
Bonjour.
Alors, vous avez répondu à la demande de ces étudiants pour évoquer aux côtés des sénateurs mahorais et ultramarins la gestion des risques naturels. Comment et pourquoi vous sentez-vous concernée ?
Alors, bien évidemment, ici à Montpellier, nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent de Mayotte. Je pense aussi aux Comoriens qui ont été extrêmement impactés aussi. Et nous avons ouvert les portes de notre maison des relations internationales immédiatement pour les accueillir, pour demander comment on pouvait être en soutien, qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter, quelle aide, quel accompagnement. Et on a été tout de suite réunis ensemble pour pouvoir, le plus rapidement possible, après le 14 décembre et ce terrible drame qui s'est produit sur une terre qui est aujourd'hui méconnaissable, il faut le dire. Et donc, avec les étudiants, nous avons travaillé ensemble pour bâtir un programme qu'ils ont développé, en fait, avec les associations également du territoire.
Alors, votre fonction vous a mis en 2024, qui a été l'année la plus chaude depuis la révolution industrielle, en lien avec de nombreuses populations qui ont été concernées par le réchauffement et à travers le monde en plus. Donc, que faut-il faire partout et d'abord, et puis chez soi en particulier ?
Alors, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, et surtout dans les temps qui courent, avec les discours qui se propagent de l'autre côté de l'Atlantique, où finalement, on n'écoute plus les scientifiques, on ne les croit plus. Il ne faut pas oublier que finalement, Mayotte, notre département français, tristement le plus pauvre, a été touché par un phénomène naturel. Chido est un phénomène naturel, ok, mais tout cela est exacerbé par le réchauffement climatique. Ne l'oublions pas. Et différentes études ont montré que finalement un climat qui se réchauffe tend à rendre les cyclones plus intenses, avec vraiment une clarté, la température élevée des eaux de surface de l'océan Indien en particulier, atteignent plus de 30 degrés, a pu fournir un immense réservoir d'énergie à Chido. Et aujourd'hui, les projections du GIEC nous indiquent très clairement qu'avec 1,5 degré de réchauffement global, la proportion...
Alors, on est même à 1,7 aujourd'hui.
Alors, tout est là. Voilà, la proportion de cyclones tropicaux intenses pourrait augmenter de 10%. 10% et 20% si le réchauffement atteint 4 degrés. Donc, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, on est sur cette trajectoire et nous devrions absolument accompagner aussi bien les terres qui sont touchées directement que travailler, bien évidemment, et c'était la question qui a été posée, sur notre propre territoire.
Alors justement, sur notre propre territoire, Montpellier est proche de la mer. Ouais. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire aussi? Vous évoquiez par exemple quelque chose de très très important. Aujourd'hui, de plus en plus, on n'écoute plus. Finalement, le discours scientifique, c'est-à-dire que on voit avec Trump des politiques qui nient complètement ce qui va se passer et se moquent éperdument de ce qu'on conseille. Mmh. Or, à Montpellier même, il est conseillé de faire attention à la montée des eaux. Alors, vous en pensez quoi ?
Évidemment, nous sommes très impactés. Nous sommes en Méditerranée. Nous savons que la Méditerranée est un hotspot en termes de changement climatique. Donc, en gros, on réchauffe plus vite que d'autres territoires. Donc, on est en première ligne sur ces problématiques. Et nous sommes dans la métropole, certainement un tout petit peu éloignés pour la partie montpelliéraine, mais nous avons quand même Villeneuve-les-Maguelones qui est sur la côte et qui est directement touchée. Et je voudrais soulever un article...
Et puis, en plus de ça, on peut dire aussi que la nature se moque éperdument des structures administratives.
Mais bien évidemment, il n'y a pas de frontière pour la nature, c'est évident. Et je voudrais quand même souligner un article qui est sorti aujourd'hui dans la Gazette et qui donne voix, en fait, à un rapport de la Chambre régionale des comptes qui montre que, finalement, on est dans les roues, un petit peu en retard sur la réaction que nous devons avoir par rapport à la mer qui monte. Et les prévisions, je vous les rappelle, hein, 40 cm d'ici 2050. 40 cm d'ici 2050.
Et s'aperçoit en plus que les statistiques sont vraies. Et qu'elles vont plus vite même que
vite
ce que les
prévu.
Rapports prévoyaient.
Exactement, exactement. Et ceci équivaut à 16 000 logements dans l'Hérault. Donc voilà, on est en première ligne sur ces sujets. Alors, je voudrais quand même dire que sur la partie métropolitaine, Montpellier, nous avons notre GEMAPI, donc pour les risques aquatiques, qui a intégré complètement cette réalité scientifique dans le PLUI, donc le plan local d'urbanisme.
Oui, mais on continue quand même à prévoir de construire en allant vers la mer. Alors, c'est vrai, c'est une vieille idée de fraîche. Hein. On ne va pas rendre Michaël Delafosse responsable de cela. Mais on poursuit quand même cette vision de Montpellier s'étendant vers la mer.
Alors nous, on est plutôt sur Montpellier s'étend vers l'ouest, justement, vers l'arrière, en fait, l'arrière-pays, avec le projet Med-Vallée, avec toute la construction et la rénovation, la revitalisation de la Mosson. Donc je dirais, on est plutôt tourné, nous, dans notre, avec le maire et avec notre projet municipal, vers l'autre côté de Montpellier. Donc, on regarde vers la mer avec Villeneuve-les-Maguelones, bien sûr, c'est notre partenaire métropolitain. Mais nous, notre travail de développement de la ville pousse plutôt de l'autre côté. Donc,
et
voilà,
c'est par là que vous avez vos projets d'accueil, finalement, de tous les nouveaux habitants qui continuent à se projeter ?
Tout à fait. On travaille au niveau métropolitain, bien sûr, et nous travaillons sur l'ensemble que forment les 31 communes de la métropole, avec un travail, finalement, qui a été... un petit peu négligé dans le passé, où effectivement, on avait une vision, on allait plutôt vers la Méditerranée, on regardait vers la Méditerranée, vers le large. Aujourd'hui, on est en train vraiment de réinvestir toute cette partie hôpitaux, facultés, Mosson et au-delà même, pour justement apporter une meilleure qualité de vie aux citoyens, aux Montpelliérains qui vivent dans cette partie-là de la métropole, mais aussi... à pouvoir accueillir de nouvelles personnes.
Alors, et bien évidemment,
la mixité sociale, bien sûr.
Alors, il y a des voix qui s'élèvent justement sur le fait que les métropoles veulent accueillir trop de monde. Et elles accueillent, bien sûr, les nouveaux habitants parce que, d'une part, ça augmente leur nombre d'habitants, donc leurs subventions, donc le partenariat de l'État, etc. Donc, finalement, ils y trouvent leur compte. Alors, est-ce que Montpellier se pose la question de continuer à grandir ?
C'est une question majeure. Et je pense que Montpellier, de manière presque naturelle, a grandi. Montpellier est très, très attractif. Montpellier est une ville qui attire les étudiants. Très souvent, les étudiants s'installent aussi après, par la suite de leurs études. Donc, j'aime pas cette expression, mais le « silver economy », les aînés, en fait, les retraités, les jeunes retraités qui viennent à Montpellier parce qu'on a une qualité de vie avérée, parce qu'on a des soins qui sont tout à fait exceptionnels avec nos hôpitaux, nos cliniques, et parce qu'aussi, on a une offre culturelle et sportive qui est hors norme. Donc, tout ça fait qu'on attire. Après, est-ce qu'on peut un jour dire « on arrête là » C'est très difficile de faire cela. Et d'autant plus que Montpellier a aussi besoin de création d'emplois, a besoin d'entreprises. Et ce sont très souvent des chefs d'entreprise qui viennent s'installer et qui créent un écosystème autour de leur entreprise en créant de l'emploi, en s'installant, en logeant leur famille, etc.
Alors, justement,
ça, on en a bien besoin.
J'aurais deux questions à ce sujet. La première, c'est, on a évoqué tout à l'heure votre accueil des Comoriens, des Mahorais, et vous venez d'évoquer le fait que parfois les étudiants s'installent. Donc, ma première question, c'est, est-ce que... on a des Mahorais qui se sont installés sur Montpellier et qui ont l'intention d'y rester. La deuxième question, vous avez évoqué le rapport de la Cour des comptes tout à l'heure, rapport qui est donc paru en début de semaine et qui justement épingle, alors pas forcément Montpellier, mais en tout cas les communes du littoral, c'est-à-dire Frontignan notamment, La Grande-Motte, Palavas, qui continuent à construire énormément indépendamment des risques. Et puis on voit le coût des terrains qui grimpe de manière anormale. Donc comment alors mes deux questions sont un peu séparées bien sûr, mais d'abord donc les Mahorais, est-ce qu'on en a quelques-uns sur Montpellier qui se sont installés?
Oui, absolument. Ce sont on a des associations d'ultramarins. Et puis, avec des Mahorais dedans, des Mahorais qui, aujourd'hui, sont installés chez nous, ont fait leur vie, travaillent. Il y a des chefs d'entreprise, des commerçants Mahorais.
Il y en avait beaucoup sur Marseille. On sait que
Marseille a été
un des premiers lieux de la diaspora.
Ouais,
Mais donc Montpellier devient maintenant...
Montpellier également. Et je pense qu'on est tous et toutes très fiers du fait que nous avons le plus grand carnaval hors Paris, quand même, à Montpellier, je le dis, parce que c'est...
Ultramarin,
bien évidemment. Absolument immense et qui attire un monde incroyable et qui se déroule chaque année de manière totalement apaisée, joyeuse. Bien c'est sûr, quand mais apaisé. Alors, c'est, je mais pense c'est bientôt, que c'est bientôt, là. C'est, oui, je n'ai pas la date en tête, mais en tout cas, c'est en février.
C'est en février,
et, voilà. Et c'est un moment absolument incroyable. Et la jeunesse est magnifique. Alors, il n'y a pas que des jeunes, hein, mais en tout cas, quelle alors, belle jeunesse.
Revenons maintenant. Oui, alors, oui. Bien sûr, ce ne sont pas vraiment des municipalités qui dépendent de Montpellier, mais on appartient à la même région. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut quand même travailler quand on est montpelliérain? C'est une question que, par exemple, on se pose beaucoup dans le cadre de notre émission. Est-ce qu'on peut travailler à cette culture du risque?
Bien sûr, bien sûr. Absolument essentiel. Nous avons à Montpellier dans sa métropole mis en place des applications pour prévenir le public. Ça fait partie d'une approche qu'on pourrait appeler Smart City, en fait la ville connectée. Comment on touche le plus grand nombre quand il y a un risque? Comment on encourage les citoyens à être connectés et à pouvoir justement disposer des informations le plus vite possible? Très simple.
Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, plus vite?
Oui, très, très simplement. On est un parent, on a ses enfants à l'école, il va y avoir un épisode Sevenol majeur. Comment on fait pour toucher les papas, les mamans au plus vite pour qu'ils puissent aller chercher leurs enfants le plus tôt possible? Voilà, donc ce sont ces sujets-là qui nous concernent. Mais sur lesquels on travaille.
Vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup avec le Sud. Est-ce que la culture du risque telle qu'elle a été développée, par exemple, contre les cyclones en Guadeloupe ou en Martinique, est quelque chose que vous essayez d'investir, enfin de faire connaître à
Absolument,
Montpellier?
Absolument, complètement. Et on a de la chance chez nous d'avoir des entreprises qui sont installées sur le territoire et qui sont premières mondiales sur ce sujet de gestion des risques. Et donc, qui nous accompagnent également dans la mise en place de ces dispositifs qui viennent en appui à la population et qui nous aident beaucoup à déployer le côté très positif de ce qu'on pourrait appeler une smart city.
C'est ce dont vous allez parler à la journée de samedi.
Oui, on parlera de cela. Mais je ne voudrais pas oublier non plus dans le rapport du CRC l'appel, en fait, du CRC envers...
ce qu'on parle, la Cour des comptes. Hein,
la Cour des comptes, pardon. Ah, voilà. L'appel qui plutôt une incitation, en fait, aux intercommunalités qui ont la gestion, comme la métropole, qui ont la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, parce qu'on parle de ça, hein, quand on est à Montpellier, c'est vraiment cette partie-là, à anticiper le retrait du trait de côte au sein de plans locaux d'urbanisme intercommunal, le PLUI, le fameux, dont on parle en ce moment. Et nous, bien évidemment, tout cela est intégré, complètement intégré. Et je dirais même, tellement pour nous, c'est une évidence, Madame le maire de Villeneuve-les-Maguelones est également présidente du GEMAPI. Donc, on a un intérêt immédiat, un travail qui se fait de manière très collégiale. Et nous travaillons, bien sûr, sur la gestion du risque sur notre territoire. Le grand territoire y inclut le petit bout de côte méditerranéenne qui est le nôtre.
Merci Clara Hart. À bientôt. Et alors pour tous ceux qui écouteront cette émission vendredi, il est encore temps de vous inscrire ou de vous rendre samedi matin aux 50 places Zeus à la salle du conseil pour suivre donc la journée consacrée à la gestion du risque lors des catastrophes naturelles. Et bien pour les autres, belle écoute de la rediffusion et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.